France Musique. Stéphane Grant, les grands entretiens. France Musique.
Je m'appelle Barbara Hendricks. Je suis née le 20 novembre 1948 à Stevens, Arkansas. Je suis soprano.
C'est le deuxième volet de notre conversation cette semaine avec Barbara Hendricks, la soprane que l'on retrouve dans ses années d'adolescence à Little Rock, et pour elle, une rencontre très importante avec le directeur de la chorale du lycée.
C'était juste avant Thanksgiving, et il avait M. Porter, et j'ai dit bonjour, et j'étais un peu un bof. Ils allaient chanter pour un programme de Thanksgiving pour toute l'école. Il avait un solo de soprane, et bien sûr, tous les sopranes qui avaient l'habitude de chanter les solos ont fait une audition pour le chanter. Et finalement, il me regarde et dit, « Est-ce que toi, tu aimerais le chanter ?» Je dis, « Mon Dieu, c'est mon audition devant tout le cœur. Ah là là !» Mais comme j'avais ça dans l'oreille, j'ai chanté. Et c'est moi qui l'ai eu. Qui voulait dire que, bon, j'étais... mes meilleurs amis, les premières années, étaient plutôt les mezzo-sopranes et pas les sopranes. Et voilà, c'était une énorme surprise. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et bon, toute mon attitude a changé parce que je trouvais ce chœur qui était extraordinaire avec ce directeur qui connaissait tous les différents styles de musique et qui était un des meilleurs pianistes jazz vraiment de la région.
Et à cette époque, déjà, il faisait des concerts. Et vous, quand Arthur Porter allait faire des concerts, vous faisiez babysitting, vous gardiez les enfants du couple Porter. Oui. Et c'est comme ça, n'est-ce pas, chez eux, que vous avez aussi découvert toute la collection de disques de jazz et tous les interprètes de jazz qui vous ont accompagné tout le
oui,
reste de votre vie, Barbara.
Oui, c'est là que ça a commencé mon amour pour le jazz. Oui. Mais sans jamais vraiment penser à le chanter, parce que j'aurais aimé chanter avec Arthur Porter, mais comme il jouait dans les clubs et les... J'en avais pas l'âge, il fallait être 18 ans.
Oui, vous aviez 15 ans.
Parce qu'à cause de, oui, j'avais 15 ans, 16 ans. Mais j'écoutais et j'ai toujours aimé les premières fois que j'ai entendu Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Billie Holiday. Ouais, j'ai trouvé ça un monde fantastique.
Qu'est-ce qui vous touchait beaucoup?
Bon, d'abord, je crois que c'était varié. Chacun avait, je n'avais pas besoin de choisir entre elle, il y avait Nancy Wilson aussi, quelqu'un que j'aimais beaucoup, classe aussi dans comment elle chante. Je crois qu'elle vit toujours même. C'est comme si j'ai ouvert une porte pour aller dans une pièce qui était pleine de choses extraordinaires.
Love laughs at a king. Kings don't mean a thing. On the street of dreams, dreams broken in two can be made like new. On the street of dreams, gold, silver and gold, all you poor, long as love is sure. on the street of dreams.
Mais sans me pousser de chanter, il m'a toujours donné les petits conseils. Il m'a dit une fois, moi je veux pas que toi tu chantes souvent les solos, parce que je veux que quand tu chantes devant toute l'école, que les autres élèves vont trouver que c'est un événement, parce que Barbara va chanter aujourd'hui. Ouais. Non, mais c'est...
C'était joli la relation que vous aviez avec lui, très
jolie. Oui, très jolie. Mais il ne m'a jamais dit, oh, il ne faut pas faire les séances, il faut faire la musique. Non, il m'a laissé, mais il était très, très heureux, comme je l'ai dit quelques années après, que j'allais à la Juilliard School pour étudier le chant.
Il vous poussait, il vous incitait quand même, oui, justement, à aller dans cette voie de la musique classique?
On avait chanté un peu de tout dans le chœur. Et non, pas du tout. Je crois qu'il aurait aimé que si j'avais commencé avec le jazz, parce que là, j'aurais pu chanter avec lui. Mais quand il avait vu que j'allais dans la musique classique, il m'a beaucoup soutenue. Il était très, très heureux.
Vous aviez une idée à l'époque, Barbara Hendrix, de ce qu'était exactement l'opéra. Et donc, on est là au début, à peine le milieu des années 60. Il se passe beaucoup de choses aussi dans ce monde-là, précisément sur la scène du Metropolitan Opera de New York, 1961. Ce sont les débuts sur cette scène de Leontine Price, grande interprète soprane black, noire, et qui fait ses débuts triomphaux dans le trou vert de Verdi avec pas loin de trois quarts d'heure de standing ovation pour elle. Vous aviez écho de cela à l'époque ou l'avez su plus tard?
Oui, non, mais j'avais écho de ça parce que on avait... Nos magazines, nos journaux noirs, qui parlaient de ce qui se passait partout aux États-Unis. Mais aussi, moi, j'avais suivi avant Paul Robeson et Marian Anderson, la première femme noire chantée au Met à la fin de sa carrière. Mais Leontine Price, c'est quelqu'un qui, je l'ai vu chanter à la télévision, et ça, je crois que quelque part dans ma tête, le moment donné où j'avais la possibilité d'aller faire ces études, j'ai réalisé que c'était possible. Pas possible que j'allais faire une carrière comme Leontine Price, parce que pour moi, c'est une des plus belles voix de tous les temps.
Oui, qu'est-ce qu'elle procurait comme sensation chez vous, la voix de Leontine Price, quand vous étiez
adolescente? Ah oui, ses vibrations, c'est sa beauté, c'est doré, c'est le timbre qui... qui est large et oui, c'est pour moi, comme je dis, une des plus grandes voix de tous les temps, la plus belle.
Stéphane Grant, les grands entretiens, France Musique.
Je continuais mes études à l'université parce que c'est ça que je connaissais. Je dis, mais je sais faire ça et j'aime.
Vous aimiez ça, les maths, les matières scientifiques.
Oui, oui. Ouais. J'aimais ça et je dis, bon, je commençais l'université, j'avais que 16 ans. Je dis, bon, je sais pas ce que je veux faire avec ma vie, mais à 16 ans, est-ce que j'ai besoin vraiment de savoir? Je continue de faire ce que je sais faire. Et on va voir. Mais juste après la deuxième année, j'ai décidé de changer l'école, parce que là, j'avais plus de 18 ans et je pouvais. J'ai reçu une lettre de ce collège, Lane College, c'était à Jackson, Tennessee, pour me proposer d'aller faire un programme d'échange avec une université méthodiste à Lincoln, Nebraska. Et quand j'étais là, j'ai pu, pour la première fois, choisir de prendre les leçons de chant. Et là, j'ai rencontré des autres élèves de ce professeur. Il était de Viennois, M. Bennett, mais on l'appelait Pop Bennett, comme Papa Bennett. Et nous, on s'amusait, lui et moi, parce que comme j'étais pas un élève de musique, il n'avait pas besoin de me préparer pour mon diplôme, mais... Une de ses élèves avec qui je suis devenue amie, m'a dit, ah oui, moi, je vais préparer un concours. Il a dit, mais tu peux le faire aussi. Je dis, mais oui. Et bon, j'ai pris quelques airs. C'était Puccini, l'air de Madam Butterfly, l'air de Liu, aussi un air qui est devenu vraiment mon air préféré pour les auditions après. C'est l'air de Louise Charpentier, Depuis le jour. J'ai gagné beaucoup de concours avec cet air-là. Et là, j'ai préparé ça avec Pop Bennett. Et surprise de tout le monde, et surtout moi, c'est moi qui ai gagné pour l'État de Nebraska. J'ai dit, mon Dieu. Mais eux, ils ont eu un papier des juges, du jury, et qui avait dit, il y avait un qui avait dit, quelle magnifique voix, quelque chose comme ça, mais quelle langue chante-t-elle? Parce que moi, je ne connaissais rien d'italien. J'ai fait un peu approximatif de ce que j'ai entendu sur le disque. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris la musique.
Alors 1968, Barbara Hendricks, là vous êtes invitée pour 9 semaines de stage à Aspen, dans le Colorado, au Festival de musique d'Aspen bien sûr, et c'est là que vous allez rencontrer celle qui va être bientôt votre professeur de chant, une grande mezzo, Jenny Tourelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec elle?
Bon, la première rencontre était assez drôle, parce que c'était dans son appartement à Aspen. Et bon, à l'heure de mon leçon, je frappe à la porte, sa secrétaire Jean ouvre la porte, et juste quand j'entre, je vois qu'elle avait jeté quelque chose, je ne sais pas si c'était un cendrier ou si c'était quelque chose, un morceau de papier vers la tête de la fille qui chantait. Ah, la fille, là, je retourne vers Jean, je dis, mais voilà, s'il n'est pas bien aujourd'hui, je peux revenir un autre jour. Elle a dit, oh non, 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 dear, elle va très bien. Et bon, quand elle avait terminé, l'autre est partie, et Jenny retourne vers moi, elle a dit, mais bonjour, comment allez-vous? J'ai dit, mais moi, très bien. J'ai dit, mais vous? Et bon, je commençais, je sais que j'avais chanté pour elle le début de l'ère de la somnambule, pas la cabalette, mais juste la première partie. J'ai vu qu'elle a, comme elle m'a écouté. Voilà, elle a dit, oui, je vous accepte comme élève. Mais quand même, je n'ai pas d'idée qui elle était.
Pour les plus jeunes d'ailleurs qui nous écoutent, Barbara Hendricks, on peut rappeler en quelques mots qui était Jenny Tourelle, mezzo-soprane, grande interprète de son époque, grande amie et grande interprète aussi de Leonard Bernstein, entre autres.
Ah oui, c'était... oui. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard. Oui. Mais c'était un des grands mezzo-soprano de son époque. Elle avait commencé sa carrière en France, à l'Opéra Comique. Elle était russe. Elle est venue avec sa famille juste avant la révolution en Russie, via l'Allemagne. Mais malheureusement, en étant juive, elle avait quitté la France pour aller vers le Portugal, le Canada, pour arriver... réfugiés aux États-Unis, quoi. Ah, et voilà, mais c'était vraiment des grandes sopranes, très bonnes amies de Leonard Bernstein. Il avait écrit pour elle le Jeremiah Symphony, aussi le deuxième symphony, Kaddish, que j'ai eu l'honneur, grand honneur, de chanter avec lui à Hiroshima, bon, dans une tournée pour la paix. Voilà, c'était un grand, grand artiste. Mais quand j'étais à Smith Colorado, j'avais aucune idée. Aucune idée. Mais elle était très gentille avec moi parce que, comme je vous ai dit, moi, je ne savais même pas comment préparer. Mais à la fin de ces 9 semaines qui étaient pleines de musique, j'ai découvert vraiment un grand amour qui est la musique de chambre. C'est le vendredi soir. C'est sous un grand chapiteau. Il avait le Juilliard String Quartet qui était en résidence. Il avait un concert tous les vendredis soirs. J'ai des souvenirs sous la pluie, derrière, avec tous les vêtements et toutes les couvertures que je peux avoir sur moi, écouter les quartures de Schubert, de Schumann. C'était un coup de foudre pour la musique de chambre. J'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai même chanté avec Jenny Turrell, la seule fois, dans le 2e symphonie de Mahler. J'ai chanté dans le chœur. Elle avait chanté la partie de mezzo-soprano. Et là, je commençais à voir un peu cette artiste Jenny Turrell. Et à la fin de ces 9 semaines, elle m'a dit, si vous avez envie de continuer sérieusement, je vous accepte comme élève à la Juilliard School si vous venez faire l'audition pour l'entrée à l'école.
C'est là que tout bascule, vous diriez? C'est là quand même qu'entre les maths, la physique et la chimie d'un côté, et puis la musique et le chant d'un autre côté, il faut faire un choix, parce que là on est en 1968, vous avez 20 ans, donc c'est quand même une carrière de musicienne et de chanteuse qui s'ouvre à vous, Barbara Hendricks.
Oui, mais moi j'étais très pratique, j'avais une année pour terminer, pour avoir le diplôme, le bachelor's degree.
Vous vouliez arriver jusque-là?
Non, mais je n'allais pas jeter tout ça. Et en plus, je devais préparer l'audition pour le Juilliard. J'ai étudié avec ce monsieur Dale Gaines, qui était le chef de chœur à l'église et aussi à l'Université de Nebraska, qui m'a préparé pour mon audition à la Juilliard School au mois d'avril. Et là, j'ai été acceptée avec bourse. Je me souviens qu'il m'a demandé de faire un examen de piano. J'ai dit, mais vous perdez votre temps, moi je ne peux pas. Il a dit, oh non, mais les petites choses un peu rudimentaires. J'ai dit, mais vous pouvez me jouer une gamme. J'ai dit, mais je suis désolée, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Il dit, ok, vous commencez avec le piano au plus haut, plus bas niveau. Et bon, le solfège, ah oui, voilà, c'était horrible.
D'une façon sérieuse dans ses cours avec Jenny Turrell, vous ne connaissiez pas encore exactement votre voix, elle non plus. Est-ce que vous avez beaucoup cherché cela? Comment ça
oui,
s'est passé?
Oui, elle m'a proposé des différents répertoires. Moi, je commençais à chanter comme elle, beaucoup de leads et de mélodies françaises, parce que elle m'a appris son amour pour la mélodie française. Et je commençais vraiment dans les premières années avec Forêt, Debussy. Je crois que même deuxième ou première année, j'avais fait un masterclass avec Hugues Queneau avec les 5 poèmes de Baudelaire de Debussy. Mais parce que comme c'est divisé, tout ça, à l'époque, chaque année, on étudiait une langue. Pas assez bien pour parler la langue, mais pour apprendre à chanter la langue. On avait étudié un peu de grammaire et tout ça, mais ce n'était pas vraiment des leçons pour parler. La première année, c'est italien, deuxième français, troisième, c'est allemand et quatrième, anglais. Anglais, oui, parce que c'est une langue très difficile pour chanter bien. Il a des voyelles qui ne sont vraiment pas très musicales, comme dans le mot « at ». Et bon, il faut apprendre bien chanter l'anglais. Chaque année, j'ai ajouté à mon répertoire. Mais Jenny Turrell, elle m'a dit, voilà, il faut apprendre cette air-là. Et quand je l'ai chanté, des fois, dit, ah non, mais pas ça, ou en tout cas, pas pour maintenant. Une des choses très importantes, il m'a dit, la voix que tu as, il faut toujours chanter avec ton instrument. Jamais le forcer, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas pousser les limites pour sa voix ou pour aller, mais jamais le pousser. Mais la chose la plus importante avec mon rencontre avec Jenny Turrell, c'est que malgré le fait que je me trouvais très rebelle, il avait beaucoup de ce que j'ai appris chez mes parents qui restaient avec moi. J'étais vraiment très protestante, je devais travailler, pas faire des choses qui avec trop de plaisir. Et je cherchais une raison de faire ça. Je dis parce que j'aime tellement chanter. Est-ce que vraiment j'ai le droit de faire métier en faisant quelque chose que j'aime, qui me donne la joie, moi? Et en regardant Jenny Turrell travailler, parce qu'elle chantait encore, j'ai vu pour moi en personne ce qui est devenu ma définition de l'artiste, qui est quelqu'un qui est toujours à la service de son art, qui est toujours derrière l'art et qui est à la recherche de la vérité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle chante. Et là, je trouvais ça assez noble d'essayer de faire. Parce que moi, j'ai appris, il faut quelque chose qui redonne. Bon, être médecin, on aide les autres, pour être professeur, institutrice, pour être pasteur. On redonne aux autres, mais chanter juste pour moi-même. Ah oui, mais là, j'ai vu en elle ça. Et aussi, pendant ce temps que j'étais un peu rebelle contre mon père, j'avais ma mère qui était vraiment un exemple. Elle était plus éduquée que mon père. C'est elle qui avait fait des études pour avoir son diplôme d'université, qui a pris des années pour elle, et qui aussi m'a dit qu'une femme doit toujours être indépendante. Il faut jamais être dépendante d'un homme pour vivre. Et Jenny Turrell m'a fait voir qu'en effet, d'être un artiste, de pouvoir être un artiste, ça valait la peine, comme un but dans la vie. Et après tout, j'étais obligée de suivre ce destin, de cette voie que je n'ai pas choisie, mais qui m'a choisie. C'est la musique qui m'a donné la chance de rencontrer un tel artiste comme Jenny Turrell, vraiment au moment où j'avais besoin de définir un but dans ma vie.
Thank you. Après un rêve, mélodie de Gabriel Fauré interprétée par Barbara Hendricks et Michel D'Alberto. On retrouve la soprane américaine demain pour le troisième volet des Grands Entretiens. Un grand merci à Gilles Blanchard qui a réalisé cette émission avec Pierre Quintard, Claire Levasseur et Céline Tronnouvelle. Toutes les infos, la réécoute en ligne et le podcast sur francemusique.fr.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.